Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Au micro, Lievin Bouinga. D'abord les titres de ce journal. Le président de l'Assemblée provinciale de la Tchopo s'en va en guerre contre la désinformation. Mateus Kanga Londimo appelle la population à vaquer paisiblement à ses occupations et à se méfier de ce mal. Il s'est exprimé à l'ouverture de la session ordinaire du mois de mars à Kisangani. Démarrage de la campagne de sensibilisation des leaders communautaires pour la recherche d'une paix durable dans le territoire de Djougou. Elle a été lancée par les forces armées de la RDC et l'armée ougandaise UPDF. Première étape, Fataki, détail dans un instant. Le Monde a célébré hier 31 mars la journée zéro déchet des Nations Unies. À cette occasion, nous allons parler de la transformation des déchets textiles en objets d'art. Et M. Prince Ryan Kalongo est ici pour nous en parler. C'est un jeune membre de l'ONG, appui aux initiatives communautaires de développement durable, une ASBL de la ville de Goma. Nous commençons ce journal par la série d'ouverture des assemblées provinciales. La population de la Tchopo appelée à vaquer paisiblement à ses occupations et à ne pas céder à la désinformation. Cette dernière n'a qu'un seul objectif, semer la panique et la psychose au sein et dans le chef de la population en vue de la démoraliser. Cet appel est du président de l'Assemblée provinciale de la Tchopo, Mateus Kanga Londimo, hier lundi à l'ouverture de la session ordinaire du mois de mars. Une occasion pour lui de prêcher l'unité afin de barrer la route aux ennemis de la paix. Un reportage signé Jacques Moukonkole.
Au regard des atrocités commises par les armées ougandaises et rwandaises dans les années 2000 à Kisangani, Mateus Kanga déclare que la rébellion n'est pas la bienvenue dans cette ville-là. Il appelle la population à l'unité et à la résistance tous azimutants.
Nous devons tous nous souder les coudes pour barrer la route à la désinformation, car l'histoire nous enseigne que la conquête des peuples commence par la conquête de son esprit. Il est temps d'en finir avec des discours simplistes et des théories complotistes. Dénonçons plutôt les cas suspects.
Dans cette logique, le président de l'Assemblée salue l'engagement du gouvernement provincial à se joindre à son institution dans la mise en place d'un contrôle provincial de résistance. Son but est de mobiliser la population et de la préparer à la résistance sous toutes ses formes. Par ailleurs, cette session étant législative, Mathieu Kanga appelle les députés provinciaux à jouer pleinement leur rôle dans la production des édits et des contrôles parlementaires.
Tous les problèmes qui relèvent de notre compétence méritent scrupuleusement de trouver des solutions appropriées au travers des édits. Cette session est aussi dite une session de contrôle. Ce qui veut simplement dire que nous devons, au vu de la loi, remplir notre devoir de chambre de contrôle au niveau provincial.
Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Kapi.
Ouverture également de la session ordinaire de mars dans le Sud Kivu, mais dans un contexte tout à fait particulier. La cérémonie a eu lieu dans le bâtiment de la mairie d'Uvira. Donc c'est Uvira qui abrite désormais le siège des institutions de la province du Sud Kivu depuis l'occupation de la ville de Bukavu par les rebelles M23 et leurs supplétifs de l'armée rwandaise. Seuls 18 députés sur les 48 ont participé à la cérémonie d'ouverture de cette session du mois de mars, la majorité ayant été dispersés par la guerre. Quelques représentants des organisations associatives et des membres du Conseil provincial de sécurité ont pris part à la cérémonie présidée par le président du bureau de l'Assemblée provinciale, Fiston Kabeza, en présence du vice-gouverneur de la province du Sud Kivu. La série de démarrage des assemblées provinciales continue. Kwilu a aussi ouvert sa session de mars hier lundi. Au cours de cette plénière, le président a entre autres déploré le fait que les recettes propres à la province devant servir pour des investissements en faveur de la population prennent d'autres destinations en toute impunité et cela au bénéfice de certaines personnes. Maître Claude Kumbel Mpassi promet un contrôle parlementaire rigoureux afin de redresser toutes les anomalies et booster le développement tant souhaité de la province. Reportage Irène Mbomaluzolo.
Dans son discours d'ouverture de la session ordinaire de mars, le président de l'Assemblée provinciale du Kwilu a notamment dénoncé l'écoulage des recettes de la province par des individus. Maître Claude Kumpel.
Les recettes propres à la province collectées par la régie financière provinciale de Gérée ne sont pas bien mobilisées ni canalisées. Elles prennent en toute impunité des destinations inconnues, servant plus des individus que la province elle-même. Dans ce contexte, nous ferons du contrôle parlementaire un instrument efficace pour le redressement de cette terre afin de donner des fils, un petit sourire à la population.
Les patrons de l'organe délibérant du Kwilu est aussi revenu sur la problématique de la desserte en électricité et en eau potable, et surtout dans la ville de Bandundu.
Le président de l'Assemblée va s'impliquer personnellement en ce qui concerne la surfacturation des abonnés de la SNED, la mauvaise desserte en électricité et en eau potable dans certains quartiers de la ville de Bandundu.
Le député provincial Claude Kumpel a aussi mis un accent particulier sur la situation des déplacés internes des Kwamout qui vivent actuellement dans la province du Kwilu. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Retour à Kinshasa avec cette affaire du décès du brigadier de première classe et membre de la police de circulation routière. La police nationale congolaise indique avoir ouvert une enquête sur la mort dans des circonstances non encore élucidées de Kabea Senda Fiston, le policier de roulage est décédé hier lundi à Kinshasa. Étienne Lissoumbou.
Alors que la police ouvre son enquête, des allégations circulent sur les réseaux sociaux accusant les gardes du corps de la première ministre Judith Suminwa d'avoir battu à mort ce policier. Un agent de police anonyme, dans une vidéo virale partagée sur les réseaux sociaux, affirme que le défunt aurait été tué après avoir intercepté les cortèges de la première ministre pour une infraction routière.
Les cortèges de la première ministre avaient pris les sens uniques. Nous avons créé la route pour elle. 10 minutes après, les chefs de sécurité est revenu avec la suite. Ils ont pris les roulages, ils l'ont mis dans les véhicules et l'ont battu. Ils l'ont amené vers l'auditorat où il a rendu l'âme.
La police, pour sa part, qualifie cette vidéo de désinformation. Colonel Julien Mavungu explique.
Par rapport aux informations en circulation sur les réseaux sociaux, informations faisant état du décès du brigadier de première classe Kabea Senda Fiston de la police de circulation routière ville de Kinshasa. Les circonstances de la mort n'étant pas encore élucidées, la police nationale congolaise appelle la population à ne pas céder à la manipulation et à la désinformation.
Tout en exprimant sa compassion à la famille du brigadier Kabea Senda, la police appelle à la prudence et exhorte la population à ne pas céder à la manipulation.
En rapport toujours avec cette affaire, Maître Carlos Mopili, activiste des droits de l'homme, réclame un procès équitable pour le policier tué par la garde de la première ministre. Selon lui, il dénonce aussi, suivant le témoignage du collègue du policier, que le cortège de la première ministre roulait à sens contraire en violation du code de la route. Il a été joint au téléphone par Étienne Lissoumbou.
Nous sommes des défenseurs des droits de l'homme. Et nous sommes là pour défendre la vie humaine parce qu'elle est sacrée. Qu'importe qu'il soit policier ou ministre ou victime du M23. Parce que récemment dans notre pays, lorsqu'on est victime du M23, c'est là où on voit le ministre Mouyaya faire des tweets de compassion. Mais lorsqu'on est victime, la police ou les militaires congolais, là il n'y a pas de compassion. Nous parlons de la mort d'une circonstance infractionnelle et de façon qui doit être menée dans une procédure de flagrance. Et il y a un témoin, son collègue qui a vécu la scène d'enlèvement, des tortures, et il venait d'être informé du décès de son collègue. Comment on veut porter le problème sur le dos de l'auditorat alors que nous sommes tous conscients qu'au niveau du cachot de l'auditorat, on ne torture pas les policiers, on ne torture pas le détenu. Et comment ces policiers s'est retrouvé au niveau de l'auditorat? Pourtant, les cortèges de la première ministre qui roulait au sens contraire. Le cortège a violé les codes de la route.
Suite à des consultations politiques à présent, les religieux, toutes tendances confondues, se sont retrouvés hier lundi aux consultations politiques. Le nonce apostolique Ejiba Yamapia, à la tête de l'église de Réveil, ainsi que les représentants de l'église des autochtones ont échangé avec le conseiller spécial du chef de l'État, Eberhard Kolongele. Toutes ces églises privilégient la voie du dialogue. Elles invitent aussi toutes les parties à rejoindre cet appel à mise en commun d'idées contre la guerre. D'autres précisions avec Billy Ivan Lutumba.
Le représentant du pape François n'a pas voulu faire des commentaires sur son échange avec le conseiller Eberhard sur le pacte social pour la paix mené par la CENCO et les CC. Du moins, il estime primordial que l'ordre constitutionnel soit respecté.
Nous restons en contact rapproché pour clarifier les questions ouvertes. Aussi au sujet des prérogatives constitutionnelles du président de la République, Tshisekedi, et du respect de l'ordre juridique en RDC. C'est extrêmement important de se vraiment mettre au table, de trouver des solutions dialoguées.
Après près d'une heure d'échange, les représentants représentants des églises de réveil ont déclaré devant les médias qu'il est nécessaire que toute initiative à la paix puisse se greffer aux consultations afin de fédérer toutes les énergies congolaises contre l'agresseur. Et Jibaya Mapia.
Nous en appelons aux autres qui ne sont pas encore venus de pouvoir emboîter les pas et de venir à ces consultations et d'apporter leurs contributions, car tous nous avons un objectif commun, la paix pour la République démocratique du Congo, que ceux qui occupent une partie du territoire puissent quitter. S'il y a une quelconque initiative, elle doit se greffer à l'appel du chef de l'État, à tous les Congolais, à l'unité, à l'intégrité du territoire.
Pour leur part, les églises dites indépendantes des Noirs ou des Autochtones sont allées aussi dans le sens de l'union de tous les religieux pour que leurs prières concourent à l'unité et la paix en RDC.
Sécurité en Ituri, les forces armées de la RDC et l'armée ougandaise UPDF ont lancé ce lundi une série de sensibilisations des leaders communautaires pour la recherche d'une paix durable dans le territoire de Djougou. Première étape de cette tournée, Fataki, à 110 km au nord de Bunia. Selon des sources sécuritaires, l'objectif est d'emmener les chefs traditionnels et leaders communautaires à sensibiliser à leur tour les jeunes qui ont pris les armes à les déposer, sans quoi les groupes armés réfractaires au processus de paix en cours subiront la puissance du feu des opérations militaires conjointes FRDC-UPDF. Le point avec Martial Kiza Biamungu.
On prépare à cette première rencontre Teddy à Fataki. Le chef du secteur de Walindoujati et Piti, le chef de la chefferie de Baima Badjiri, des notables venus de Boulé, Libi et Pimbo, des membres du comité local de sécurité de Fataki ainsi que des représentants des services de sécurité. Selon des sources sécuritaires, les FRDC ont d'abord expliqué aux délégués de la population l'essence de la mutualisation des moyens entre l'armée congolaise et les UPDF pour le maintien de la paix dans les territoires. Les mêmes sources indiquent que, de son côté, les commandants des troupes ougandaises basées à Bethléem, non loin de Fataki Centre, a invité les leaders communautaires présents à la rencontre à sensibiliser les jeunes qui ont pris illégalement les armes contre la République à les déposer pour ne pas subir la pression des opérations militaires conjointes qui vont bientôt être lancées par les deux armées. Cet officier ougandais a précisé que la présence de UPDF en Djougou n'est pas pour protéger telle ou telle communauté, mais pour permettre aux populations des différentes communautés de vivre en paix. Bounia, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
Des jeunes civils sont tués, torturés ou enlevés au quotidien dans les villes de Goma et Bukavu par des hommes armés, dont de présumés cadres du mouvement rebelle, M23. L'alerte a été lancée dans un communiqué publié hier lundi par l'organisation locale dénommée Badilika, qui signifie changement. Pour le coordonnateur de cette organisation de défense des droits humains, ces actes exacerbent la souffrance qu'endurent les victimes, en particulier dans ces deux villes déjà isolées de l'accès humanitaire. Ainsi, il appelle à une mobilisation nationale et internationale pour y mettre fin. Suivons ici les propos de Patrick Nguka.
Nous sommes choqués de constater aujourd'hui les rebelles imposent son autorité à travers les actes qui sont constitutifs de crimes graves. Les jeunes de ces deux villes sont sujets de tortures et de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Pendant les opérations nocturnes qu'on organise les rebelles, les jeunes sont enlevés, fouettés, d'autres sont suspendus, d'autres sont aussi ligotés et soumis à des chaises électriques dans les salles interrogatoires. À travers notre monitoring, en moyenne, 8 jeunes sont tués dans ces deux villes chaque jour et environ 25 jeunes sont torturés quotidiennement. Nous rappelons et nous alertons la communauté locale, nationale et internationale que ces actes sont condamnables et nous exigeons qu'il y ait des enquêtes pour que les justiciables soient présentés devant la justice et nous appelons aussi aux rebelles de cesser toute manipulation de la jeunesse congolaise.
Sachez aussi que des combats violents sont signalés ce mardi depuis le matin dans le groupement de Karongo-Nyangezi dans le territoire de Walungu à une vingtaine de kilomètres au nord de la ville de Bukavu. Des crépitements de balles se sont intensifiés jusqu'à Nyakabongola. Les sources sur place affirment que le M23 AFC et leurs alliés de l'armée rwandaise fortement armés effectuent des mouvements intenses vers les lignes des fronts. Ces combats reprennent deux semaines après l'assaut des Wazalendo sur les positions M23 dans les mêmes zones de Nyangezi et Nyantende. autre nouvelle, trop c'est trop. La population de Kinshasa mérite un service public fiable et accessible à tous. C'est en ces termes que la nouvelle société civile congolaise dénonce avec fermeté la détérioration continue du service public d'électricité à Kinshasa. Selon l'ONG, les coupures intempestives, les délestages prolongés et les pannes généralisées plongent de nombreux habitants dans l'obscurité pendant des semaines entières. Cette situation, déclare la nouvelle société civile, met en péril la vie quotidienne des populations, paralyse les activités économiques et compromet gravement l'accès aux services essentiels tels que la santé et l'éducation. On écoute le coordonnateur de la NSCC, Jonas Tchombela. Il est au micro de Jeff Ngoy.
Nous exigeons une explication claire et transparente de la part des dirigeants de la SNEL sur les causes réelles de cette crise énergétique. La mise en place d'un plan d'urgence pour établir un approvisionnement stable en électricité, la suspension immédiate de facturation aux abonnés non desservis et un mécanisme de compensation pour le désagrément subi. Une réforme structurelle de la gestion de la SNEL afin d'en faire un service véritablement au service des citoyens. La démission immédiate des dirigeants de la SNEL, responsables de la gestion défaillante et de la souffrance de la population kinoise. Si aucune amélioration n'est constatée dans le bref délai, la nouvelle société civile congolaise se réserve le droit d'intensifier des actions citoyennes pour faire entendre cette revendication des consommateurs quinois. Trop, c'est trop.
Autre chapitre, près de 500 personnes ont été reçues le 27 et le 28 mars dernier au Centre neuropsychopathologique CNPP, ici à Kinshasa. Cela dans le cadre des consultations gratuites organisées à l'occasion du 50e anniversaire de ce centre. Cela réjouit le médecin directeur qui affirme avoir atteint l'objectif, celui de faire connaître le CNPP comme une institution des soins de santé mentale. Docteur Okitundu le dit au micro de Rachel Kiese-Mbango.
Le 27, nous avons reçu 42 malades, mais le 28, nous avons reçu 454 malades que nous avons réellement consultés et nous avons eu à admettre en soins intensifs une patiente le 27 et puis le 28, nous avons hospitalisé dans le service des urgences 4 patients. Du côté des enfants, c'est ce qu'on appelle maladie du développement du cerveau, parmi lesquels vous avez les enfants avec autisme. Et puis on a le cas d'épilepsie qui concernait et les enfants et les adultes. Il y a les gens qui ont des séquelles d'accidents vasculaires au niveau du cerveau et puis toutes sortes de paralysies pour lesquelles les gens sont venus consulter. Le premier bénéfice pour nous, c'était de faire connaître le CNPP comme une institution de soins de santé du cerveau qui est restée depuis plusieurs années mal connue de la population.
Actualité internationale.
Hors de nos frontières, au Burkina Faso, une vingtaine de militaires condamnés pour leur rôle dans le coup d'État manqué du 16 septembre 2015 ont reçu une grâce présidentielle. Il s'agit de l'application de la loi adoptée fin décembre 2024 par les membres de l'Assemblée législative de transition. Le capitaine Ibrahim Traoré a signé un décret pour la libération de plusieurs officiers et sous-officiers de l'ex-régiment de sécurité présidentielle.
L'invité.
Le monde a célébré hier, 31 mars, la journée zéro déchet des Nations Unies. À cette occasion, nous recevons comme invité Prince Ryan Kolongo. Ce jeune de l'ONG appuie aux initiatives communautaires de développement durable dans la ville de Goma. Prince Ryan parle du projet de transformation des déchets textiles en objets d'art, le but étant de lutter contre la pollution de l'environnement et également promouvoir l'autonomisation de la jeunesse. Prince Ryan Kolongo s'entretient ici avec Chris Mokand.
Kolongo, Prince Ryan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes jeune de l'ICED. Et c'est quoi ICED?
ICED, c'est une organisation, ça veut dire appui aux initiatives communautaires de développement durable. Et donc, on s'occupe des initiatives qui peuvent réduire les réchauffements climatiques ou améliorer l'environnement pour toute la communauté.
Ce 31 mars 2025, il y a ONU Zéro Déchet. Comment la jeunesse au niveau de ICED travaille dans cette perspective?
Oui, les déchets textiles sont un poison pour les vies de tous les habitants. Parce que beaucoup de gens brûlent ces déchets-là sans se soucier des conséquences, alors que ces déchets, les matières textiles, contiennent des additifs toxiques et aussi qui peuvent être contenus dans la peinture ou dans les fibres. Et tout cela, quand c'est brûlé ou jeté, ça revient plus tard empoisonner l'eau que nous buvons ou l'air que nous respirons. Et donc, en tant que jeunes de la société ICET, nous avons pris cette journée pour montrer qu'à partir de ces déchets textiles que tout le monde néglige, les gens se débarrassent de ça, on peut arriver à faire des œuvres d'art. On a fait quelques tableaux et c'est aussi une occasion pour montrer que faire des tableaux d'art avec les déchets textiles, c'est aussi un moyen d'autonomiser la jeunesse puisque ces déchets ne coûtent presque rien. On les trouve facilement. Mais quand vous faites un tableau, vous pouvez les vendre à 30$ ou même 100$ si c'est dans une exposition.
Et concrètement, le travail se fait comment des déchets en tableau?
On va chez les tailleurs pour collectionner les bouts de tissu que eux peuvent jeter ou brûler. Alors après ça, on les ramène à la maison, on va découper et puis on va les coller sur un tableau. Et cela permet d'avoir un résultat d'un tableau vraiment beau.
Et c'est quoi le motif qui peut apparaître sur les tableaux? Qu'est-ce que vous pouvez faire avec quelle représentation, par exemple?
Le choix est vraiment large, mais on a choisi de faire un masque africain et une silhouette d'une femme africaine. Mais on peut aller vraiment beaucoup plus loin et la seule limite, c'est l'imagination.
Donc, vous avez besoin de quels matériaux?
Juste de la colle et une toile et quelques bouts de tissu. Et déjà, on peut avoir un tableau.
Peut-on dire que vous en êtes à votre première expérience ou il y a déjà du chemin déjà parcouru?
On est au début. On a déjà fait des tableaux, bien sûr, avec des objets recyclés, mais c'est la première fois d'utiliser du textile.
Ainsi, vous croyez contribuer à la propreté de la ville et à la sauvegarde de l'environnement?
Bien sûr, seul on ne peut rien faire, mais si cette initiative était adoptée par une majorité de personnes, ça contribuerait grandement à la réduction de la pollution des déchets textiles.
Et pour l'instant, comment se constitue l'équipe de ces jeunes qui s'adonnent à cette transformation?
Pour l'instant, il y a ceux qui s'occupent de recueillir les déchets textiles. Certains vont en faire des paillassons et puis il y en a d'autres qui vont faire des objets d'art.
Et le travail est coordonné comment? Vous travaillez chacun dans son coin ou vous êtes réunis dans un cadre spécifique?
C'est plutôt chacun dans son coin parce que chacun a sa propre vision artistique, si je peux dire comme ça.
Et quelles sont les perspectives de ce projet?
Premièrement, c'est de montrer qu'on peut réduire la pollution des déchets textiles en faisant des œuvres d'art. Deuxièmement, rendre autonomes certains jeunes en leur offrant une source de revenus. Et peut-être plus tard, ouvrir même des expositions dans des ateliers où les gens pourront venir acheter ces œuvres d'art pour les garder chez eux.
Prince Ryan, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Ouais, avec plaisir.
Voilà, c'est sur cette note de la journée Zéro Déchet que nous terminons ce journal au nom de Martin Sebujango, Élisée Tchikota et Polydor Basunga. Je vous dis merci de l'avoir suivi partout où vous vous trouvez, à Kinshasa ou dans le monde. Bon après-midi à tous.